Depuis l'année 1702 que je fus menée sur les galères à Dunkerque, je fus recommandée par mes parents de Bordeaux, de Bergerac et d'Amsterdam à un riche et renommé banquier, nommé M. Piécourt, qui avait maison à Dunkerque et s'y tenait souvent. Il était natif de Bordeaux, protestant d'origine et de cœur, mais papiste à la royale. Je laisserai pour un moment mon sujet pour parler de ce qui m'arriva au commencement que je fus mis aux galères, touchant ce même M. Piécourt. Il était, comme on dit, du grand monde. Généreux comme un prince et sa bourse toujours ouverte pour faire plaisir au grand seigneur de qui il était fort caressé. Monsieur Piécourt, donc, se voyant sollicité de divers endroits en ma faveur et par des gens qu'il considérait extrêmement, jugea que je valais la peine qu'il me rendît service et que s'il me pouvait procurer ma délivrance, il se rendrait du moins ses meilleurs amis très obligés pour ses bons offices. Il parla en ma faveur à monsieur le chevalier de Langeron, mon capitaine, qui me fit jouir de quelques douceurs sur la galère à sa considération, car il était son grand ami. Mais, voulant pousser plus loin ses bons offices, il pria un jour mon capitaine que le lendemain, à 8 heures du matin qui était jour de Noël, il eut la bonté d'ordonner qu'on me menât chez lui. Il prenait ce temps-là pour n'avoir pas sa femme pour témoin. Elle était une papiste bigote, et elle devait ce même matin-là rester à l'église jusqu'à midi. Monsieur de Langeron vint la veille de ce jour sur sa galère, en hiver ces messieurs n'y logent pas, pour ordonner à l'argousin de m'amener lui-même, sans chaîne, chez Monsieur Piécourt, et d'attendre à la porte de la rue ou dans le vestibule que j'eusse achevé mes affaires avec lui, ce qui fut exécuté. Monsieur Piécourt me fit entrer dans sa chambre, disant à ses domestiques qu'il n'était visible pour personne. Il commença à m'exagérer l'envie qu'il avait de me rendre service, ajoutant qu'il en avait imaginé un moyen qui lui réussirait certainement pour peu que j'y donnasse la main. Je le remerciai de sa bonté et lui dis que je ferais tout ce qu'il souhaiterait pourvu que cela puisse s'accorder avec ma conscience. « La conscience, me dit-il, y aura un peu de part, mais c'est si peu que vous ne le sentirez pas, et ce que vous y trouverez ne m'élever, vous irez vous en purger en Hollande. « Écoutez, me dit-il, je suis protestant comme vous. J'ai des raisons pour ma fortune de faire l'hypocrite devant le monde. Je ne crois pas qu'il y ait là un si grand mal, lorsqu'on apostasie pas tacitement. Voilà, continua-t-il, le moyen auquel j'ai pensé pour vous mettre en liberté. J'ai monsieur de Pontchartrain, ministre d'État de la Marine, pour ami, et qui n'a rien à me refuser. Vous ne ferez que signer une promesse que je lui enverrai, et par laquelle vous promettrez, lorsque vous serez en liberté et en quel pays que vous soyez, de vivre et mourir en bon catholique romain. Vous n'aurez aucune cérémonie à faire, personne même ne saura ce que vous aurez promis, et vous ne serez pas exposé à être en scandale à vos frères. Si vous faites cela, continua-t-il, je puis vous assurer qu'avant qu'il soit 15 jours, vous serez mis en liberté. Et je me charge de vous faire passer en Hollande sûrement et sans le moindre danger. Qu'en pensez-vous, me dit-il. Je pense, monsieur, lui répondis-je, que je me suis trompé en vous croyant bon protestant. Vous êtes protestant, mais il faut retrancher le mot bon. J'en suis bien fâché et je vous prie de me pardonner si j'ose prendre la liberté de vous dire que vous n'êtes rien en croyant être protestant. Quoi, monsieur, continuai-je. Croyez-vous que Dieu est sourd et aveugle et que la promesse que vous me proposez, cachée aux yeux des hommes, ne l'offenserait pas souverainement, autant et même plus que si je la faisais à un simple curé? Car enfin, je n'aurais qu'à la faire à l'aumônier de la galère où je suis, il me procurerait d'abord ma délivrance. Ne vous y trompez pas, lui dis-je encore, monsieur, vos propres lumières sur la vérité vous condamnent, car vous savez aussi bien que moi, et même beaucoup mieux, que si la confession que nous faisons à Dieu dans nos cœurs n'est pas confirmée par celle de nos bouches, cet acte de foi qui est une vertu devient un grand crime. Il m'allégua encore quelques autres raisons pour adoucir la rigidité que l'Évangile nous prescrit. Je les réfutai toutes, suivant que ma foi et ma conscience me le dictaient. Je lui dis ensuite que je ne croyais pas que mes parents, qui m'avaient recommandé à ses bontés, l'eussent sollicité de me procurer ma délivrance aux dépens de ma conscience. Non, certainement, me dit-il, bien loin de là, et je ne voudrais pas pour beaucoup qu'ils le sussent. Il m'embrassa, la larme à l'œil, souhaitant et priant Dieu qu'il m'accordât la grâce de persévérer dans des sentiments si dignes d'un confesseur de la vérité. « Je ne vous aime plus, me dit-il, par recommandation, mais par une pure considération pour les beaux sentiments que je vois en vous, et vous pouvez compter que je veillerai aux occasions de vous rendre service. » Il m'offrit ensuite tout l'argent dont j'aurais besoin, et en quel temps que ce fut. Je le remerciai de mon mieux, après quoi je pris congé de lui et je revins sur la galère. Depuis ce temps-là, Monsieur Piécourt me venait voir souvent sur la galère, m'offrant toujours ses services. Il arriva donc, ayant entendu que notre galère avait perdu beaucoup de monde à la prise que nous avions faite de cette frégate anglaise, il courut d'abord au port pour s'informer de moi. Il apprit que j'étais fort blessé et qu'on m'avait déjà porté à l'hôpital. Il fut de ce pas chez le chirurgien-major de cet hôpital qui a été son ami et me recommanda à ses soins, aussi fortement que si j'avais été son propre fils. Aussi puis-je dire qu'après Dieu, je dois la vie à ce chirurgien-major qui prit à tâche, contre sa coutume, car il ne faisait jamais qu'ordonner, de me panser lui-même. À la première visite qu'il fit dans notre chambre, il tira ses tablettes de sa poche et demanda qui se nommait Jean Marteil. Je lui dis que c'était moi. Il s'approcha de mon lit et me demanda si je connaissais M. Piécourt. Je lui dis que oui et qu'il avait la bonté de me procurer autant de soulagement qu'il pouvait depuis 6 ou 7 années que j'étais en galère. La manière, me dit-il, dont il vous a recommandé à mes soins, me prouve assez ce que vous me dites. Aussi, m'en acquitterai-je avec plaisir. Voyons, dit-il, vos plaies. La principale était celle de l'épaule, très dangereuse par sa situation. D'abord qu'il eut levé le premier et l'unique appareil que le chirurgien de la galère m'avait mis, qui n'était qu'une compresse trempée d'eau-de-vie, et qu'il vit que cette négligence était cause que la gangrène était à ma plaie, il appela le chirurgien de la galère, lui reprocha qu'il était un bourreau de m'avoir ainsi traité, et que si j'en mourais comme il était à craindre, il aurait à se reprocher d'être mon meurtrier. Notre chirurgien s'excusa du mieux qu'il put, et pria le chirurgien-major de permettre qu'il me pansât. Le chirurgien-major le refusa et déclara à tous les autres que j'étais son blessé, et qu'il ne prétendait pas que qui que ce soit me pansât que lui. En effet, il prit un si grand soin de moi, et usa de tant de précautions pour que la gangrène, qui était dans toutes mes plaies, ne gagnât le dessus, que je puis dire, humainement parlant, qu'il me sauva la vie. Il mourut bien les 3/4 de nos blessés, dont la plupart ne l'étaient pas si dangereusement que moi. Cette grande quantité de monde qui mourut à l'hôpital, tant des équipages des galères que des forçats, fit croire que la frégate anglaise avait empoisonné ses balles. Mais je crois avec tous les gens raisonnables que c'était une pure calomnie, causée par la haine que les Français portaient à cette nation. J'ai entendu raisonner là-dessus le chirurgien-major, qui était le plus habile de France dans son art, et qui soutenait que cette mortalité de nos blessés ne provenait de ce que la mitraille des canons était pour la plupart sale et enrouillée, et déchirant d'ailleurs les chairs des plaies qu'elle faisait, cela joint à la négligence que les chirurgiens des bords apportaient à leur premier appareil, était cause que les plaies étaient incurables. Joignez à cela que dans les hôpitaux comme celui où nous étions, où il se trouvait 40 ou 50 chirurgiens au pansement, chacun indifféremment pensait le premier qui lui tombait sous la main. Ce qui faisait qu'il était rare qu'un seul chirurgien pensât 2 fois le même blessé. Il n'en fut pas de même à mon égard, car comme j'ai déjà dit, je fus toujours pansé par le chirurgien-major qui consolida mes plaies dans moins de 2 mois. Mais il me fit rester encore 1 mois de convalescence pour me bien refaire et reprendre mes forces. Le directeur de l'hôpital, à qui j'étais ainsi recommandé, ayant ordonné aux frères de l'ordre de Saint-François, qui servent cet hôpital, de me donner tout ce que je demanderais, ce qui ne fut pas nuisible à ma santé et à la guérison de mes plaies. J'étais nourri et soigné comme un prince. Au bout de 3 mois d'hôpital, je me trouvais gros et gras comme un moine, et le chirurgien-major m'ayant donné une attestation de sa main comme quoi j'étais, par mes blessures, rendu incapable de la rame et autres travaux des galères, je fus renvoyé sur la galère dans mon bord ordinaire.